VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique. 9 personnes ont été tuées jeudi au Sénégal dans les violences qui ont éclaté après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024, est plus que jamais menacé d'inéligibilité. Ce bilan a été annoncé par le ministre de l'Intérieur, Antoine Diom, dans un court message diffusé par la télévision nationale dans la nuit. Il a aussi confirmé que les autorités avaient restreint l'accès aux réseaux sociaux, ce qui a été constaté par exemple pour Facebook, WhatsApp ou Twitter. Les violences ont éclaté jeudi à Dakar et ailleurs au Sénégal après cette condamnation de Ousmane Sonko à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Elles font suite au délibéré rendu jeudi par une chambre criminelle de Dakar contre l'opposant qui était accusé de viol et de menace de mort. Le tribunal l'a donc condamné pour corruption de la jeunesse qui consiste à favoriser la débauche d'un jeune de moins de 21 ans. Il a en revanche acquitté M. Sonko des accusations de viol et menace de mort. La plaignante Adi Sarr, ancienne employée du salon de beauté où M. Sonko allait se faire masser, avait moins de 21 ans au moment des faits qu'elle dénonce. La situation au Sénégal, ce sera l'essentiel de cette édition du vendredi 2 juin 2023. En direct de Washington, Idrissa Seloudia. Au Sénégal donc, la tension reste toujours vive après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à une peine de 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Une peine jugée politique par ses militants qui ont envahi la rue à Dakar et dans plusieurs localités du pays. À Faune, depuis le début des manifestations, le gouvernement du Sénégal a finalement réagi au-delà de 0 heure via le ministre de l'Intérieur qui a annoncé la mort de 9 personnes et des mesures radicales. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Des voitures de police en feu, des stations d'essence en cendres, des édifices publics en ruine, conséquence d'une journée où le pays était à feu et à sang, comme le confirme le bilan dressé par le ministre de l'Intérieur, Antoine Diom.
Suite à un différend opposant une jeune Sénégalaise au chef du parti PASTEF, les juridictions de notre pays ont rendu un jugement ce jeudi 1er juin 2023. Nous avons constaté avec regret des violences ayant entraîné des destructions sur des biens publics et privés et malheureusement 9 décès à Dakar et à Ziguinchor.
En réaction à ce soulèvement populaire, le gouvernement a pris des mesures radicales en coupant d'abord le signal de la télévision Walfadjri. Le ministre de l'Intérieur a également confirmé la censure d'Internet avant de lancer un avertissement aux médias.
Ayant constaté sur les réseaux sociaux la diffusion de messages et subversifs, l'État du Sénégal a décidé de suspendre temporairement l'usage de certaines applications digitales par lesquelles se font des appels à la violence et à la haine. Nous rappelons aux médias l'importance de respecter le code de la presse qui permet à l'autorité administrative de prévenir ou de faire cesser toute plainte à la sûreté de l'État, à l'intégrité du territoire national ou tout cas d'incitation à la haine.
9 morts et des dégâts matériels importants, c'est le bilan de cette journée où des scènes de violence inouïes ont eu lieu au Sénégal après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à une peine de 2 ans ferme. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a été le point de départ des manifestations qui se sont ensuite propagées dans la capitale et dans plusieurs localités du pays. De violents affrontements ont eu lieu entre les forces de l'ordre et des jeunes déterminés qui disent combattre pour la sauvegarde de la démocratie sénégalaise. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
Merci à Seydina que nous retrouverons en seconde partie. Maintenant pour une analyse, Idriss Fall a joint hier dans la capitale sénégalaise notre ancien correspondant Alassane Samba Diop, maintenant directeur de immédiat à Dakar. Alassane revient d'abord sur les événements d'hier jeudi.
Ce qui s'est passé, c'est le procès de M. Ousmane Sonko, le principal opposant au pouvoir. Ousmane Sonko est accusé de viol et de menace de mort. La justice a disqualifié les deux faits, le viol et menace de mort. L'a condamné pour corruption à la jeunesse, donc il a été condamné. Donc ses avocats disent que cette condamnation corruption à la jeunesse pour eux, c'est une façon futile pour le pouvoir de l'écarter à la prochaine présidentielle qui est prévue dans 8 mois au Sénégal. Ce qui a fait ça dégénérer le Sénégal dans toute la Dakar et des manifestations, on peut partout aussi à l'intérieur du pays, à l'université Cheikh de Dakar et les affrontements. Dans les principales villes du Sénégal aussi, les villes sont sorties, se sont affrontées aux forces de l'ordre, des pneus brûlés, biens publics saccagés, des biens même privés saccagés. Les privés sénégalais ont vu leurs véhicules incendiés. Donc on est dans une situation très tendue sur le Sénégal.
Mais comment expliquez-vous en fait ce degré de violence? Parce qu'il semble que même le Sesti a été incendié.
Oui, le Sesti a été incendié, l'Ebad a été incendié. Il y a aussi au niveau de la faculté de lettres et des sciences humaines aussi, les bureaux des professeurs ont été incendiés, saccagés. La violence qu'on a fait ici au Sénégal, les vigiles qui étaient aussi ici ont dit que ceux qui sont venus sur la violence ne sont pas des étudiants. C'est des gens peut-être qui sont venus d'ailleurs. D'ailleurs, on assiste de plus en plus aux manifestations au Sénégal des gens, peut-être dans la sous-région, ou même qui ne sont pas l'habitude d'être à Dakar, qui sont venus. Il y a aussi parmi les marcheurs, les casseurs, des voyous qui sont en pleine. Il y a des magasins. Et des fois, quand il y a des manifestations, vous voyez des voyous qui s'installent devant les supermarchés comme Auchan, attendent qu'il y ait des manifestations pour attaquer les boutiques volées.
Mais jusqu'où ça va aller, tout ça?
On ne sait pas où ça va aller. D'ailleurs, cette affaire intervient au lendemain du lancement du dialogue politique, dialogue national, initié par le président Macky Sall avec certains partis politiques, l'accepté de voter. Ousmane Sonko et aussi une partie de ses partisans ont refusé d'aller au dialogue. D'autres sont partis, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Mais le Sénégal espère qu'avec ce dialogue politique, les politiciens, comme ils ont toujours de sécurité au Sénégal, arriveront à trouver une solution à cette situation qui est très tendue au Sénégal. On se rappelle des années de manifestation quand Abdoulaye Wade était opposant au pouvoir aussi avec Gabidou. Ils ont toujours eu l'intelligence de s'entendre autour de l'essentiel. Et souvent, les affaires judiciaires au Sénégal sont réglées par un dialogue politique.
Joint hier dans la capitale sénégalaise, Alassane Samba Diop, directeur de Imedia à Dakar.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, le gouvernement de la République démocratique du Congo et Karim Khan, procureur de la CPI, Cour pénale internationale, ont signé un protocole d'accord sur le renforcement de leur coopération pour lutter contre l'impunité face aux crimes de guerre et contre l'humanité. C'était hier, jeudi, lors d'une cérémonie à Kinshasa. Monsieur Khan vient de passer 4 jours en RDC, notamment dans l'est du pays, en proie aux violences de multiples groupes armés, hérités pour beaucoup des guerres des années 1990-2000. En Ituri, comme dans le Sud Kivu, il a rappelé que la CPI se penchait depuis près de 20 ans sur les crimes commis dans ces régions, pour lesquels la Cour a prononcé 3 condamnations définitives. Il y a eu une bonne coopération avec la RDC, mais malheureusement, a-t-il déploré simultanément, trop de filles, de garçons, d'hommes et de femmes continuent d'être violées. Les États-Unis ont annoncé des sanctions hier contre l'armée et les paramilitaires en guerre pour le pouvoir au Soudan, où une 20aine de civils ont été tués dans des bombardements sur un marché de Khartoum. Jacques Aristide.
Après que l'armée a quitté les pourparlers censés créer des couloirs sécurisés pour l'aide humanitaire et les habitants pris au piège des combats meurtriers, la Maison-Blanche a durci le ton. Elle a fait état de sanctions contre 4 entreprises, 2 groupes d'armement de l'armée et 2 compagnies, notamment une impliquée dans les mines d'or du Soudan, tenue par le général Mohamed Hamdan Daglo, qui mène les forces de soutien rapide, et 2 de ses frères. Les 2 dernières compagnies ont fourni des millions de dollars aux groupes paramilitaires depuis et vers des comptes en dirhams aux Émirats Arabes Unis. Sur le terrain, la violence ne fait que grandir. La nouvelle trêve, pourtant acceptée en début de semaine par les belligérants, a fait long feu comme une dizaine d'autres. Le comité de résistance qui organise l'entraide entre habitants parle d'une situation catastrophique, lançant un appel urgent pour des médecins et des dons de sang. Le Programme alimentaire mondial dénonce, lui, des pillages menaçant des stocks de nourriture vitaux pour 4,4 millions de personnes.
Grâce à un vote du Congrès, les États-Unis ont suspendu hier jeudi le plafond de leur dette et écarté à quelques jours près la menace d'un défaut de paiement après que le Sénat a adopté hier soir un projet de loi déjà approuvé à la Chambre basse. Selon le Trésor américain, la première puissance économique mondiale n'avait que jusqu'à lundi pour éviter la banqueroute. Il revient désormais au président Joe Biden de promulguer le texte. Il s'est dit impatient de le faire et aussi a fait savoir qu'il s'adressera aux Américains en début de soirée ce vendredi pour détailler les contours du texte. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Au Togo, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes a mis en demeure Move Africa Togo et Togocel pour non-respect de conformité réglementaire. Les deux opérateurs de téléphonie mobile ont 6 mois pour se conformer au seuil réglementaire de qualité de service. Une procédure de sanction a été ouverte le 14 mars. Selon une enquête de l'ARCEP, le taux de non-conformité est de 63% pour Move Africa Togo et de 51,4% pour Togocel. La compagnie aérienne Air Algérie a signé un contrat avec Airbus pour l'acquisition de 7 gros porteurs. Le contrat prévoit la livraison de 5 avions A330-900 et de 2 A350-1000 à partir du deuxième trimestre 2025. Un contrat pour l'achat de 8 moyens porteurs a été signé le 17 mai. La flotte d'Air Algérie, constituée de 56 appareils, souhaite se doter de 40 nouveaux avions. Le deuxième Youth Energy Summit, le sommet de l'énergie des jeunes, se déroulera du 20 au 23 juin à Nairobi, au Kenya, pour débattre de l'avenir de l'énergie en Afrique. La première édition, YES, avait été organisée l'an dernier à Bruxelles. Le programme, cette année, abordera les compétences en gestion, le développement et la planification des entreprises, technologies et innovations, et le financement en capital vert.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Gambie éliminée de la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans.
Oui, en huitième de finale hier jeudi, les juniors gambiens se sont inclinés sur la plus petite des marques 1-0 devant les jeunes Uruguayens. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Anderson Duarte. La Gambie quitte ainsi la compétition en huitième de finale. Le Nigeria, qui s'est qualifié mercredi en éliminant l'Argentine de sa propre Coupe du Monde grâce à sa victoire 2-0, sera le seul représentant du continent en quart de finale.
Faisons un saut au Cameroun pour parler du retour du portier des Lions indomptable, André Onana, en sélection nationale.
Les portes sont ouvertes à André Onana, c'est ce qu'a déclaré hier jeudi le sélectionneur des Lions indomptables Rigobert Song au cours d'une conférence de presse à Yaoundé, d'où nous retrouvons notre correspondant Emmanuel Julentap.
Le retour d'André Onana en sélection nationale ne fait plus problème. Mais il y a des préalables à cela, précise le sélectionneur des Lions indomptables Rigobert Song.
Les portes sont ouvertes, mais il sait lui-même ce qu'il a à faire pour qu'il soit intégré dans le collectif. Parce que ma posture en tant que manager sélectionneur, je préserve le collectif à l'individu. C'est à lui de faire l'essentiel.
Le gardien de but camerounais de l'Inter de Milan a annoncé sa retraite internationale en décembre dernier lors de la Coupe du Monde. La fédération avait indiqué sa mise à l'écart pour indiscipline. Si André Onana fait volte-face de sa décision, il aura désormais un sérieux concurrent à son poste. Rigobert Song a rappelé en sélection nationale Fabrice Ondoa, désigné meilleur gardien de la Coupe d'Afrique des Nations remportée en 2017 par le Cameroun, mais écarté depuis 2020, faute de club. Les Lions indomptables affrontent un match amical le Mexique le 10 juin prochain à San Diego aux États-Unis, sans Aboubakar Vincent indisponible et Maxime Choupo-Moting blessé. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur les événements au Sénégal où un tribunal criminel de Dakar a condamné hier l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. La justice l'a acquitté des accusations de viol et menaces de mort dans un climat de vive tension. Nous retrouvons notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Un complot d'État. C'est ainsi que les avocats de Ousmane Sonko qualifient ce procès qui, d'après eux, n'a qu'une finalité, empêcher l'opposant d'être candidat à la présidentielle de 2024. Des faits qui ont conduit le Sénégal dans une situation inédite, d'après Maître Siré Kélédorli, avocat de Ousmane Sonko.
Clair que le complot d'État dont nous parlions depuis le début était avéré. Et la décision rendue aussi rentre et reste toujours dans ce complot d'État. Tout un pays a été pris en otage pendant au moins 2 ans. Il y a plus de 2 ans. Il y a eu des morts, 24 morts, dit-on, sans compter qu'il peut y avoir des morts qui ne soient pas encore listés, et des centaines de blessés. Les libertés publiques confisquées, la liberté d'opinion confisquée, et des mesures de banditisme érigées en règle de droit avec des enlèvements, des séquestrages.
Du côté des avocats de la victime, la décision de la chambre criminelle n'a pas répondu à toutes les attentes, comme le confie Maître Elhadj Diouf, avocat de Adjissar.
C'est une satisfaction pour les avocats de Adjissar, mais pas une satisfaction totale. Nous aurions voulu la condamnation de M. Sonko à un minimum de 10 ans ferme. Mais nous sommes obligés de nous plier à la décision souveraine des juges de la chambre criminelle. C'est le verdict qui a été prononcé.
Et le viol n'a pas été retenu.
Le viol n'a pas été retenu. La corruption de la jeunesse a été retenue. C'est tout comme. Parce que quand on abuse de la jeunesse d'une fille pour coucher avec elle, c'est presque un viol.
Le verdict n'a pas sonné la fin de la bataille des avocats, car chacun continue à réclamer la vérité des faits. Dans certaines rues de Dakar et dans certaines localités du pays, une véritable guérilla urbaine s'est installée depuis l'annonce du verdict. Les militants de l'opposant Ousmane Sonko estimant que même si leur leader a été blanchi pour viol et menace de mort, sa condamnation pour 2 ans ferme n'est qu'un subterfuge pour l'éliminer politiquement. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Dans le domaine de la coopération militaire entre la République centrafricaine et la Russie, l'ambassadeur de la République centrafricaine à Moscou, Léon Dodonou Punagaza, a déclaré que son pays est favorable à l'installation d'une base militaire russe sur son territoire. À noter que depuis 2018, près de 2000 instructeurs militaires russes sont présents à Bangui afin d'apporter leur appui aux FACA, Forces armées centrafricaines, pour la sécurisation du pays. Au micro de Félix Yepassis Zembrou, écoutons la réaction de Joseph Bedunda, président du MDREC, Mouvement démocratique pour la reconnaissance, pour la renaissance et l'évolution du Centrafrique.
Cette information nous est tombée sur la tête comme une massue. Cela ne nous étonne pas. Touadéra est pris en otage par Poutine. Il est le vassal aujourd'hui. La Russie ne peut pas installer une base militaire en République centrafricaine. La Russie, un État terroriste qui a attaqué un État souverain, son pays voisin, l'Ukraine, Poutine voulait utiliser la République centrafricaine comme le centre de ses actions militaires pour pouvoir s'accaparer des richesses de l'Afrique centrale. Mais ça ne passera pas, ça ne se passera pas comme le voudra M. Poutine. Le peuple centrafricain est fier de sa liberté, fier de sa démocratie Et un État terroriste comme la Russie, avec son président Poutine, ne peut pas s'approprier de la République centrafricaine. Donc ce sera un échec.
Que pense le MDREC à l'annonce faite avant-hier par le chef de l'État relative à la tenue d'un référendum sur la Constitution le 30 juillet prochain?
La déclaration faite par Faustin Archange Touadéra est en violation de la Constitution de la République centrafricaine. Le chef de l'État de la République centrafricaine a fait appel aux mercenaires de Wagner pour sécuriser son pouvoir. La République centrafricaine n'est pas en sécurité. Les rebelles occupent les deux tiers du territoire centrafricain. Des puissances étrangères viennent à tout bout de champ en République centrafricaine. Donc, la révision de la Constitution, le référendum constitutionnel ne peut pas toucher l'article 153 de la République centrafricaine qui stipule « sont expressément exclus de la révision la forme républicaine et laïque de l'État, le nombre et la durée des mandats présidentiels, les conditions d'éligibilité. La constitution de la République centrafricaine doit être utilisée comme un modèle dans pratiquement tous les pays africains parce que le peuple centrafricain, en toute souveraineté, a adopté cette constitution et Touadéra deux fois de suite a prêté serment et a juré devant Dieu et devant le peuple centrafricain de la respecter scrupuleusement.
C'était Joseph Bedunda, président du MDREC, Mouvement démocratique pour la reconnaissance et l'évolution du Centrafrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Togo, les producteurs de la filière soja sont de mauvaise humeur. La campagne de commercialisation de cette année n'a pas été de leur goût. Le retard dans le lancement de la campagne et l'attribution tardive des agréments ne leur a pas permis d'écouler leurs produits. De Lomé donc, notre correspondant Kossi Wousseau.
Sale temps pour les producteurs de soja du Togo. 80 000 tonnes de soja sont toujours stockées dans leurs magasins et qu'ils peinent à écouler alors que la nouvelle saison s'annonce. Ibrahim Laré est secrétaire général de la Fédération nationale des coopératives productrices du soja.
On le faisait en début octobre, mais cette année ça allait jusqu'à novembre, à telle enseigne que les acheteurs qui venaient à partir de novembre-décembre, comme la campagne n'est pas lancée, ils se sont tournés vers d'autres pays où ils peuvent trouver le soja. L'autre aspect, c'est à partir de janvier que les premiers agréments ont commencé par sortir. C'est les deux raisons fondamentales qui ont fait que aujourd'hui nous avons encore les stocks sous les mains.
Les producteurs sont aux abois. Daloli Mibouab, productrice à Nyamasila dans la région des plateaux.
Vraiment, la campagne nous a découragés. Surtout nous les femmes, avec la production de soja, on arrive à s'en sortir et à s'occuper de nos enfants, surtout leur scolarisation. Voilà que la campagne a été très mauvaise. Nos produits n'ont pas été pris comme on le veut. On loue la terre à 25 000, on produit, on ne vend pas. Nos stocks sont emmagasinés dans nos chambres. Nous sommes découragés.
Certains parmi les producteurs se posent des questions et songent déjà à abandonner la culture du soja.
Dans nos campagnes où les agriculteurs venaient pour acheter, ils ne viennent plus. Cette année, on n'a pas vendu. Est-ce qu'il faut continuer à produire? C'est un problème que si le sud ne prend pas des mesures pour trouver des solutions, cette campagne-là, on ne va pas produire le soja.
Novici Théou, représentant des producteurs de soja de la région des plateaux, plaide pour des actions vigoureuses pour la survie de la filière.
Si on ne produit plus du soja, ça veut dire qu'on aura des soucis parce que c'est la spéculation qui est aujourd'hui celle qui rapporte de l'argent rapidement au pays.
10 ans. Et il faut vraiment que cette filière soit entretenue. Nous demandons à l'État, nous demandons aux acteurs de tout faire pour que cette filière puisse continuer parce que ça rend service aux paysans, ça rend service à 80% de la population. Il faut qu'elle survive.
Comme Lankadia Kadé, le président du Conseil interprofessionnel de la filière soja, tempère les ardeurs et informe des contacts avec les autorités.
Notre activité, c'est l'agriculture. Et donc, tout ce qu'on peut demander aujourd'hui, c'est à ce que l'autorité puisse nous rassurer que les problèmes de la campagne dernière ne vont plus se reproduire et qu'il y ait des retards de signature d'agrément, des retards de lancement de campagne qui vont faire perdre des contrats aux exportateurs. Nous pensons qu'on va toujours s'entendre avec eux et que l'activité va continuer. Donc, nous conseillons de retourner à l'activité.
Selon le président du Conseil interprofessionnel de la filière soja, une tournée nationale d'explication et de sensibilisation est prévue pour apaiser les craintes des membres de son organisation. Kossi Wousou, Lomé, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Bénin, même si la fracture numérique entre hommes et femmes reste un défi à relever, certaines béninoises, avec beaucoup d'audace, s'incrustent de plus en plus dans le secteur des TIC, technologie de l'information et de la communication, et arrivent même à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas d'Esther Idrissou, nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé, qui a rencontré l'initiatrice de la plateforme AgriYouth.
Avec une licence en journalisme, Esther Idrissou est blogueuse. En 2014, elle a créé AgriYouth, une plateforme dédiée à la promotion de l'agriculture. Mais comment est née cette passion?
Après ma formation en journalisme, j'ai compris qu'il fallait me spécialiser. Donc, j'ai créé le site AgriYouth. Ensuite, d'année en année, d'expérience en expérience, aujourd'hui, AgriYouth est une plateforme média qui publie des articles, des podcasts et contribue à la formation des jeunes dans l'agroalimentaire, l'entrepreneuriat agricole, l'entrepreneuriat faire. Donc nous faisons partie de plusieurs réseaux, dont le réseau Agro Bootcamp, où nous formons des jeunes dans l'agroécologie. Tout ça contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable.
AgriYouth est un label qui en 9 ans a réussi à convaincre la jeunesse béninoise.
La vision de AgriYouth, c'est d'augmenter l'attractivité de l'entreprise agricole, surtout portée par la jeunesse. L'agriculture est un domaine qui n'attire pas forcément la jeune génération. Nous faisons en sorte d'inspirer et de former justement une nouvelle génération de jeunes.
Âgée de 30 ans, elle confie comment elle a pu s'incruster dans le secteur dominé par les hommes.
Il a fallu vraiment être à l'affût de l'information. D'ailleurs, le digital est comme ça. Il faut vraiment pousser, aller vers l'information, ne pas rester dans son coin. Dès qu'il y a une formation, ne pas hésiter. Ne pas également hésiter à suivre des formations en ligne, à s'auto-former. Moi, je suis assez autodidacte et c'est comme ça que j'ai pu vraiment acquérir des compétences qui m'ont permis en fait de me positionner également dans ce domaine où généralement les hommes sont plus prépondérants.
Pour en arriver à ce point de renommée, elle a dû certainement affronter d'énormes difficultés.
Compliqué de mieux se positionner dans un environnement où on ne vous voit pas forcément. Mais de plus en plus, il y a des actions et des projets qui viennent donner de la visibilité à la femme. Et il y a notamment la Womenitech aujourd'hui, où je suis secrétaire générale, qui fait la promotion et qui conduit à la réduction de la fracture du genre au niveau du numérique. Donc la Womenitech favorise justement ce positionnement-là des femmes. Donc de plus en plus, ces difficultés sont en train d'être levées.
Même si le gouvernement investit pour favoriser l'insertion des femmes dans le secteur, la disponibilité de l'électricité, la qualité et le coût de la connexion Internet, ainsi que la méconnaissance des opportunités d'emploi qu'offre le numérique, sont autant de facteurs qui limitent l'accès des femmes au monde des TIC, plus particulièrement dans le monde rural. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Lionel Rodanira Gahima, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.